VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 16 mai 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Congo-Brazzaville, ouverture du procès d'un autre général après celui de Jean-Marie Michel Mokoko.
Au Cameroun, des sanctions possibles contre des gendarmes accusés de violation des droits de l'homme en zone anglophone.
Au Sénégal, un étudiant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis tué par balle hier.
Menace à peine voilée de la Corée du Nord d'annuler le sommet prévu le 12 juin à Singapour entre le président américain Donald Trump et Kim Jong-un.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho.
Pour l'instant, le journal.
En République du Congo, quatre jours après le procès du général Jean-Marie Michel Mokoko, ouverture hier de celui du général Norbert Dabira devant la cour criminelle de Brazzaville. Il est poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Yakuba Ouedraogo.
Je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. Je suis devant la barre à cause d'un mensonge, a déclaré le général Norbert Dabira, ancien inspecteur des forces armées. Il est accusé d'avoir voulu recruter deux tireurs d'élite pour abattre l'avion du président Denis Sassou Nguesso. L'acte d'accusation évoque des conversations téléphoniques en novembre 2017 entre les généraux Dabira et Nyanga Ngatse Mbuala. Ce dernier, ancien combattant de l'unité d'élite chargée de la protection du président, est cité en qualité de témoin. La défense a évoqué l'immunité juridictionnelle de son client, qui a été élevé au rang de dignitaire en 2001. La cour a rejeté cette demande. Le général Dabira a été arrêté en janvier 2018. Son procès intervient quatre jours après celui du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui a été condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. La défense de Mokoko a annoncé lundi son intention de saisir les juridictions internationales. Un autre candidat à la présidentielle de 2016, André Okombi Salissa, arrêté lui aussi en janvier 2017 pour atteinte à la sécurité de l'État, attend la date de son procès.
Au Cameroun, des sanctions pour violation des droits de l'homme pourraient être prises à l'encontre de certains gendarmes déployés en zone anglophone. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre camerounais délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Les faits qui leur sont reprochés ont été commis lors de l'interpellation d'un suspect impliqué dans l'assassinat de membres des forces de défense et de sécurité camerounaises. Précision de notre correspondant à Yaoundé. Emmanuel Jules Tap.
Les gendarmes en question sont auteurs d'une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux et dans laquelle un homme apparaît ligoté, face contre sol, gisant dans du sang, et une hautboueuse recevant par ailleurs d'incessants coups de machette. La scène se déroule dans l'enceinte d'une brigade de gendarmerie en zone anglophone. L'homme ainsi malmené se nomme Tchoboyi Alphonse Tatia, présenté comme le commandant de l'Ambazonia Defense Forces, un groupe d'hommes armés qui combat l'armée régulière dans les deux zones anglophones du Cameroun. Interpellé le week-end dernier, Tchoboyi Alphonse alias Général était activement recherché depuis plusieurs semaines selon les sources de sécurité pour notamment violence contre les populations. Seule fausse note, son interpellation a été accompagnée d'agissements contraires au respect des droits humains d'au moins 4 gendarmes que l'on peut apercevoir sur la vidéo. Ces gendarmes seront sanctionnés après identification, mentionne le communiqué du ministère de la Défense. Ce n'est pas la première fois que des cas de violation des droits humains sont retenus contre les forces de défense et de sécurité camerounaises déployées en zone anglophone. Le 7 mai dernier, le général commandant des troupes dans la région de Sud-Ouest avait été limogé. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Au Sénégal, la journée d'hier a été marquée par de violents affrontements dans les deux principales universités du pays. Un étudiant a été tué par balle lors de heurts avec les forces de l'ordre à l'université Gaston Berger de Saint-Louis dans le Nord. À Dakar, les étudiants de l'université ont bloqué les deux principales avenues menant au centre-ville. Les étudiants sénégalais protestent depuis plusieurs jours contre le non-paiement de leurs bourses. Correspondance de Seydina Abagay.
Un mort, plus d'une vingtaine de blessés, dont 18 gendarmes, des bâtiments administratifs brûlés, la maison du ministre de l'Enseignement supérieur saccagée, des scènes d'émeute d'une violence inouïe dans les espaces universitaires. Dakar et Saint-Louis ont subi la furie des étudiants. Tout est parti d'une réquisition du recteur de l'université Gaston Berger visant à sécuriser les restaurants universitaires après le renouvellement par la coordination des étudiants de Saint-Louis d'un mot d'ordre de grève de 48 heures. Ces derniers avaient décrété des journées sans ticket qui consistent à se restaurer gratuitement, une manière pour eux de protester contre le retard du paiement de leur bourse. Les gendarmes déployés au sein du campus universitaire ont fait face aux étudiants qui ont usé de projectiles pour répondre aux jets de grenades lacrymogènes. Lors de cette confrontation, les forces de l'ordre ont usé de leur arme, tuant un étudiant et blessant grièvement un autre. Dès l'annonce de la mort de leur camarade à Saint-Louis, les étudiants de l'Université de Dakar ont investi la rue, bloquant les deux principales avenues menant au centre-ville. S'en est suivi plusieurs heures d'affrontements et de saccages contre les forces de l'ordre. De son côté, le syndicat autonome des enseignants du supérieur a décrété 48 heures de grève pour manifester sa solidarité à l'endroit des étudiants du Sénégal. Pour calmer les esprits, le gouvernement a procédé au paiement des bourses quelques heures après ces événements dramatiques. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Au Nigeria, Ibrahim Zakzaki, le leader chiite nigérian emprisonné depuis plus de 2 ans, a comparu hier devant un tribunal d'Abuja. L'audience portait sur les affrontements meurtriers de 2015 entre ses partisans et l'armée. Les précisions de Marie Benson.
C'est seulement la 2e fois que Zakzaki, chef du mouvement islamique du Nigeria, apparaissait en public depuis son arrestation en décembre 2015. Sa femme et lui sont incarcérés à Abuja pour homicide volontaire, attroupement illégal et trouble à l'ordre public. Leur état de santé semble s'être dégradé. L'avocat des accusés, qui n'avait jamais été autorisé à les rencontrer, a pu parler quelques minutes avec Ibrahim Zakzaki. L'audience s'est tenue à huis clos, sous bonne garde des forces de sécurité. En l'absence d'autres accusés, le procès d'Ibrahim Zakzaki a été ajourné au 21 juin prochain. Fin 2016, le tribunal fédéral avait autorisé sa libération, mais les autorités nigérianes l'ont maintenu en détention. Ibrahim Zakzaki souhaitait établir un État islamique chiite au Nigeria. Ces dernières semaines, ses partisans ont organisé de nombreuses manifestations pour réclamer sa libération.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Des milliers de Palestiniens se sont réunis hier à Gaza pour enterrer quelques-uns des dizaines de manifestants tués dans des accrochages lundi avec les forces israéliennes à la frontière avec l'État hébreu. Un événement que des officiels des droits de l'homme de l'ONU ont condamné, le qualifiant d'épouvantable. Beaucoup de Palestiniens en deuil, brandissant des drapeaux nationalistes, ont appelé à venger les 60 morts et 2700 blessés de lundi. Il y a eu de nouvelles manifestations mardi à la frontière de Gaza et en Cisjordanie.
Les protestataires ont jeté des pierres aux forces israéliennes et allumé des feux alors que ces dernières ripostaient avec des gaz lacrymogènes. Mais ils étaient moins nombreux que les 40 000 qui s'étaient mobilisés lundi à Gaza en réaction à l'inauguration de la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem. Au moins 2 Palestiniens ont été tués mardi.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a défendu le droit de son pays de défendre sa frontière face au tollé international suscité par les tirs à balles réelles contre les protestataires. Mais les États-Unis ont blâmé le Hamas qui dirige Gaza, lui reprochant d'avoir provoqué ces manifestations, et ils ont bloqué une déclaration au Conseil de sécurité de l'ONU réclamant une enquête sur la mort des protestataires palestiniens.
Pyongyang menace maintenant de se retirer du sommet prévu le 12 juin à Singapour entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Dans une déclaration publiée ce matin à travers l'agence de presse de la Corée du Nord, le premier vice-ministre des Affaires étrangères Kim Kye-gwan a averti que Pyongyang pourrait réexaminer sa participation à ce sommet si les États-Unis continuent d'exiger que la Corée du Nord renonce unilatéralement à son arsenal nucléaire. Pyongyang a également déclaré que les États-Unis devraient mûrement réfléchir au sort de ce sommet à la lumière de ce vacarme militaire provocateur mené conjointement avec les autorités sud-coréennes. Il s'agit ici des exercices militaires américano-sud-coréens considérés par les Nord-Coréens comme des préparatifs pour une invasion de leur territoire.
Et Pyongyang a aussi annulé les discussions de haut niveau qui étaient prévues aujourd'hui entre les deux Corées. En réaction, la la Maison-Blanche s'est contentée de dire qu'elle va continuer à coordonner étroitement avec ses alliés. Le Pentagone a qualifié les exercices militaires de routine et la porte-parole du département d'État, Heather Nauert, a déclaré que Kim Jong-un avait dit auparavant qu'il comprenait l'importance de ces exercices militaires pour les États-Unis comme pour la Corée du Sud, ajoutant « Ce sont des exercices légaux planifiés longtemps à l'avance et qui ne représentent absolument pas une provocation. Nous allons continuer à aller de l'avant concernant les préparatifs », a dit encore la porte-parole américaine. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le gouvernement ivoirien a injecté 42 milliards de francs CFA pour les travaux d'extension et de modernisation de l'aéroport international d'Abidjan. D'ici à 2019, cette plateforme sera dotée d'une nouvelle voie de circulation pour accueillir plus de gros porteurs de type A380 et d'un terminal d'aviation d'affaires. L'année 2017 a connu une augmentation impressionnante du trafic des passagers jusqu'à plus de 2 millions. À l'horizon 2025, l'aéroport international d'Abidjan aura la capacité d'accueillir 10 millions de passagers. La Banque mondiale met en place un nouveau plan stratégique d'investissement pour près de 9 milliards de dollars en faveur du Nigeria. L'Association internationale de développement et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement vont exécuter ce financement pour l'exercice budgétaire 2019. L'économie nigériane sort progressivement d'une période assez difficile liée à la crise du pétrole. Un verdict final de l'OMC donne raison à Washington contre l'Union européenne et peut appliquer des sanctions commerciales annuelles évaluées à plusieurs milliards de dollars. L'instance d'appel de l'organe de règlement des différends démontrait que l'Union européenne n'avait toujours pas supprimé l'ensemble de ses subventions illégales à Airbus pour ses avions lancés récemment. Cette décision est une étape importante dans une affaire qui traîne depuis plus d'une décennie. La compagnie américaine Boeing indique que le verdict autorise les États-Unis à appliquer des mesures de rétorsion douanière sur les importations de produits européens.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Deuxième journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions.
Et la grosse surprise, puisque Kampala City a battu en Ouganda Al Ahly 2-0, Ousmane El Badri, l'entraîneur qui a présenté sa démission juste après cette défaite, démission acceptée par ses dirigeants. Défaite aussi inattendue du Primeiro de Agosto face au petit club du Swaziland de Mbabane. Au Maroc, déplacement fructueux du tout-puissant Mazembe qui bat 2-0 d'Ifa El Jadida. L'Espérance de Tunis qui domine facilement 4-1. Les Township Rollers du Botswana. Et puis le derby algérien entre Sétif et le Mouloudia Club d'Alger a tourné à l'avantage du MC Alger 1-0. Enfin, le Wydad de Casablanca n'a pas fait de détails face à l'AS Togo-Port. Victoire 3-0.
Et ce mercredi, la suite.
Le dernier match entre l'Étoile du Sahel et le Zesco United de Zambie. On parle également de la Coupe CAF ce mercredi avec Adwana Stars du Ghana qui accueille le Raja Casablanca, l'AS Vita Club contre la SEC Mimosa, le Kara de Brazzaville contre Enyimba du Nigeria, Ude Songo du Mozambique face à Berkane du Maroc, Gormaya du Kenya face à l'USM Alger, les Young Africans de Tanzanie face à Rayon Sport du Rwanda et puis Al Hilal face à El Masri. Enfin, le Djoliba face au WAC, l'autre WAC, celui de Williamsville.
La préliste tunisienne pour le Mondial 2018 connue.
29 joueurs convoqués par la Tunisie en vue du Mondial 2018. L'absence confirmée de l'attaquant vedette Youssef M'Sakni, blessé à un genou, mais aussi l'absence de nombreux binationaux chez les Aigles de Carthage. On rappelle que la Tunisie, qui devra réduire cette liste d'ici le 4 juin, effectuera notamment des matchs amicaux face au Portugal à Braga, ou encore la Turquie le 1er juin en Suisse, ou encore l'Espagne le 9 juin. En Russie, les Tunisiens seront dans le groupe G face à la Belgique, l'Angleterre et le Panama. Pas facile.
Neuer dans la préliste allemande pour la Coupe du Monde.
Le gardien Manuel Neuer, qui n'a plus joué depuis septembre, a été retenu dans cette présélection de Joachim Löw, le sélectionneur allemand pour ce mondial. Pas de grande surprise avec la présence notamment des stars de la victoire de 2014, Müller, Boateng, Hummels ou encore Kroos. On notera également, Idrissa, que le contrat du sélectionneur allemand Joachim Löw a été prolongé hier jusqu'en 2022. Allez, avec vous, la finale de la conférence Est, le deuxième match entre Boston et Cleveland.
LeBron James a marqué 21 points lors de la première période, mais cela n'a pas suffi. Cleveland a concédé une deuxième défaite 107-94 en trois jours face à Boston en finale de la conférence Est. Les Celtics mènent 2-0 et n'ont plus besoin que de 2 victoires pour éliminer les Cavaliers et disputer la finale NBA. Mais les 2 prochains matchs auront lieu samedi et lundi à Cleveland.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'inauguration de la nouvelle ambassade américaine lundi à Jérusalem a suscité des manifestations de colère des Palestiniens à Gaza, le long de la frontière avec Israël. En réaction, les forces israéliennes ont eu recours à des tirs à balles réelles et à des gaz lacrymogènes, faisant des dizaines de morts et plus de 2000 blessés. Dans son discours, le président Donald Trump a réitéré son engagement à œuvrer pour un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël va-t-elle contribuer à ramener la paix au Moyen-Orient? Irénée Herman Ungbo a joint Sami Aoun, professeur à l'université de Sherbrooke au Canada.
Ils ont crevé l'abcès et peut-être ça pourrait redonner vie à ce processus de paix. Ça pour ceux qui minimalement gardent un certain espoir. Le danger, c'est que la réponse, si elle est violente et s'il n'y a pas une vision globale, comment aller avec ce processus de paix, avec l'implication de la communauté internationale et du Conseil de sécurité, alors à ce moment, ce serait un coup qui est plus au détriment des droits des Palestiniens qu'en leur faveur.
Oui, parlons justement de l'implication de la communauté internationale et du Conseil de sécurité. Il y a eu plusieurs résolutions qui ont été adoptées mais qui n'ont jamais été respectées.
Vous avez bien raison. Et c'est un point qui est commun avec tous les conflits qui sont explosifs et surtout qui ont une charge religieuse, une sacralisation très poussée, de la sorte que on devient plus otage des symboliques que des réalités et du vécu du peuple qu'on a besoin de servir.
Plusieurs pays ne sont pas pour la politique israélienne en terre palestinienne, notamment l'ONU. Comment expliquez-vous l'entêtement d'Israël?
La stratégie israélienne a profité d'un rapport de force militaire en sa faveur depuis au moins les dernières 10 années, et en ce sens, depuis le printemps arabe qui a fait des déraillements et des dérapages, de la sorte que chaque pays arabe à peu près a plus le souci de la survie de son État, et on a échoué à faire la transition démocratique du despotisme, de l'autoritarisme vers une démocratie libérale.
Alors, comment voyez-vous les possibilités d'une sortie de crise entre Israéliens et Palestiniens?
Une réconciliation interpalestinienne s'impose, et surtout entre le Fatah et le Hamas, pour que les Palestiniens puissent créer une vision commune, concertée entre eux, sur ce qu'est la paix, ce qu'est la guerre.
Le professeur Sami Aoun, joint au Canada par Irénée Herman Ungbo.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur l'inauguration lundi de l'ambassade américaine à Jérusalem. Au même moment, des affrontements meurtriers ont éclaté dans la bande de Gaza entre l'armée israélienne et des manifestants palestiniens. Quel est l'impact des derniers événements sur le conflit israélo-palestinien? Pourquoi le statut de Jérusalem continue-t-il d'être source de tensions? Faut-il craindre une aggravation de la situation dans la région du Proche-Orient? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Burkina Faso, le préfet d'Orsi, une localité frontalière du Mali, a été tué dans la nuit de lundi à mardi par des djihadistes présumés. Ces deux dernières années, la région a été victime d'au moins 80 attaques terroristes qui ont fait, bilan officiel, 133 morts. Des centaines d'enseignants ont aussi abandonné la région du Nord. Pour en savoir un peu plus sur cette dernière attaque, Bagassi Koura a joint Boureima Ouedraogo, directeur de publication du journal Le Reporter.
Là, ça commence à faire trop fort, parce que quand même, c'est dans un département, c'est le représentant du chef de l'État, c'est le représentant de tout le gouvernement. Donc, si on arrive effectivement à ce niveau de ciblage des autorités, parce qu'il y a comme une sorte de montée en puissance, souvenez-vous que c'est un maire, le maire de Koutoukou, qui a été assassiné dans sa commune.
Le 8 avril.
Ensuite, aujourd'hui, un préfet de département, ça montre aussi que les terroristes, ou en tout cas, les terroristes ou les groupes qui sont à la base de ces attentats civils sont en train de monter en puissance. Et c'est pas rassurant, parce que si on peut avoir atteint les premières autorités dans un département, ni plus autre ne peut que s'en être à l'abri dans ce département.
Est-ce qu'on a eu une réaction officielle depuis là?
Pour le moment, je n'ai pas vu personnellement une réaction officielle par rapport à ce drame, mais je pense que ça ne saurait tarder. D'ici là, on verra certainement que le gouvernement ou en tout cas une voix officielle va pouvoir effectivement réagir par rapport à cette situation. On avait commencé à penser que c'était de l'intox, mais apparemment, en tout cas, toutes les sources confirment que c'est effectivement officiel, le préfet a été assassiné.
Alors, le préfet a été assassiné, le maire de Koutoukou a été assassiné le 8 avril. Il y a eu des enseignants par centaines qui ont fui la région. Est-ce qu'on peut dire que la stratégie sécuritaire du gouvernement marche?
Là, toute la difficulté, on commence à douter effectivement de l'efficacité de la stratégie du gouvernement. Parce qu'on avait pensé qu'avec l'annonce de la réouverture du tribunal de grande instance de Djibo, la réouverture de certaines écoles dans la zone, le gouvernement était en train de reprendre la main. Mais avec ce nouveau drame, on se rend à l'évidence qu'on est loin de la reprise en main de la situation.
Quelles sont les réactions au niveau de Ouagadougou, la capitale?
Sur la consternation, sur la stupéfaction, parce qu'au niveau de Ouagadougou, les gens ne pensaient pas qu'on allait arriver là. Qu'on pouvait arriver là, mais finalement, on se rend compte que ce qu'on redoutait est en train d'arriver. Et il y a de fortes chances que ça provoque encore un nouvel exode de fonctionnaires et autres agents publics dans la zone.
C'était Boureima Ouedraogo, directeur de publication du journal Le Reporter.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Les Burundais se prononcent ce jeudi par référendum sur une réforme de la Constitution qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Le projet de révision a été critiqué par la communauté internationale, notamment par l'Union africaine, qui n'a pas envoyé d'observateurs. Les organisations de défense des droits de l'homme ont également dénoncé la répression qui accompagne ce référendum et l'absence de réel débat démocratique. Jacques Aristide s'est entretenu avec Justine Duby, chargée du Burundi à la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme.
Le camp présidentiel a mené une campagne très vaste de répression pour s'assurer que la Constitution serait adoptée. On a le sentiment que voilà, un plan bien huilé d'intimidation des opposants au référendum a été mis en œuvre. Le président lui-même, déjà à partir de novembre dernier, avait annoncé que toute personne qui s'opposerait au processus de référendum serait expédiée au ciel, selon ses propres mots. Nous avons documenté des meurtres, des passages à tabac, des actes de torture, des arrestations et des détentions illégales.
La FIDH et la Ligue ITK affirment que ce projet menace directement les équilibres issus de l'accord d'Arusha. Brièvement, expliquez-nous comment.
Ces équilibres et ces principes ont été dans la pratique largement dévoyés depuis 3 ans par les différentes mesures qui ont été prises par les autorités qui ont déjà concentré les pouvoirs entre leurs mains. Le parti présidentiel, le CNDD-FDD, depuis longtemps ne reconnaît pas ces accords. Donc pour eux, c'est une stratégie qui vise à court-circuiter l'accord d'Arusha en modifiant la constitution actuelle qui reconnaît que l'accord d'Arusha a une valeur supraconstitutionnelle, c'est-à-dire qu'il vaut plus que la constitution. Et donc leur objectif, et ils l'ont déclaré publiquement, politiquement, c'est de se détacher des liens légaux qui les obligent face à cet accord, dont l'objectif était, après la guerre civile des années 90, qui a fait des milliers de morts, de ressouder la société burundaise et de réconcilier les Burundais entre eux. Et dans le nouveau projet de constitution, il y a différentes dispositions qui concentrent les pouvoirs entre les mains du président et qui enlèvent des prérogatives au gouvernement, au Parlement, qui permettaient justement d'assurer cette représentativité de l'ensemble des forces burundaises au sein du pouvoir.
Mais pour le gouvernement, le projet ne vient en aucun cas enterrer les accords d'Arusha. Il s'agit plutôt, d'après ce même gouvernement, de doter le pays d'institutions fortes, capables de mettre le Burundi à l'abri des crises cycliques de manière définitive. Ne faut-il donc pas donner le bénéfice du doute à ce régime burundais et attendre de voir ce que cette réforme apportera au pays ?
Pour nous, les objectifs de cette réforme sont très clairs. Quand le Burundi, les autorités burundaises disent qu'il faut adopter ce nouveau projet de constitution pour doter le Burundi d'institutions fortes, quand elles disent qu'il faut réformer le code de procédure pénale pour faire face à la criminalité, nous, ce qu'on constate, c'est que la crise actuelle, la violence et les fractures qui divisent de plus en plus les Burundais, elles sont alimentées et générées par les autorités elles-mêmes. Et donc, pour nous, ce projet constitutionnel est un stratagème pour renforcer le pouvoir au sein des mains du président Nkurunziza.
Justine Duby, de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, jointe à Paris.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Au Tchad, les fonctionnaires travaillent peu et le rendement de l'administration est très faible. C'est le constat fait par le président Idriss Déby Itno dans son discours lors de la promulgation de la Constitution de la 4e République. Désormais, les heures de travail passeront de 37 à 40 heures. Ceci pour contraindre les travailleurs à, et je cite, « une obligation de résultat ». Réaction des syndicalistes dans ce reportage d'André Kotmajingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Les fonctionnaires tchadiens habitués au long week-end seront soumis à un autre rythme de travail. Pour amorcer le développement du Tchad, ils doivent s'acquitter de leurs tâches quotidiennes avec dévouement et abnégation, estime Idriss Déby Itno, chef de l'État tchadien. Pour lui, un réaménagement s'impose pour augmenter le temps de travail.
La durée hebdomadaire de travail qui est de 37 heures aujourd'hui est un luxe pour un pays comme le Tchad. Nous sommes tous astreints à travailler plus pour tenir le pari de développement. L'obligation de résultat doit être la règle de notre administration.
Pour Barka Michel, président de l'Union des syndicats du Tchad, par ailleurs porte-parole de la plateforme syndicale revendicative, le problème de l'administration tchadienne, c'est le manque d'organisation.
Les nominations à des postes de responsabilité sont des nominations politiques. Si ce n'est pas politique, c'est basé sur le népotisme. Si ce n'est pas le népotisme, c'est la corruption. Deuxièmement, les conditions dans lesquelles les gens travaillent aujourd'hui ne peuvent pas donner un rendement important. Les gens sont parfois dans l'obscurité. Ils sont dans 45 degrés. Autant de qui nous amène à dire simplement à M. Déby, avec ces gens-là, même s'ils donnent 50 heures, il n'y aura pas un rendement. Aujourd'hui, le problème réside dans l'organisation du travail. Ce n'est pas le problème du nombre d'heures de travail.
Si le président Déby a besoin de rendement meilleur, il doit dépolitiser l'administration tchadienne en général et le ministère de l'Éducation nationale en particulier, estime Bayris Ngartoïde Blaise, secrétaire général du syndicat des anciens du Tchad pour la commune de N'Djamena.
On a politisé tout. Tu peux être un cancre, mais quand tu es dans un parti alliés qu'on te propose, on te nomme. Vous prenez un agent qui est du ministère de l'Éducation nationale, qui a évolué dans la carrière. S'il est nommé, vous pouvez attendre un résultat. Mais quand on met les gens, pourvu qu'ils aillent manger, écoutez, mettons 100 heures, mais le Tchad n'avancera pas.
Le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, Brahim Ben Saïd, justifie pour sa part que c'est la discrimination dans le traitement salarial qui est à l'origine de ce faible taux de rendement de travail à la fonction publique.
Aujourd'hui, vous avez un doctorat, vous êtes professeur, vous avez une maîtrise, vous avez une licence, vous avez presque les mêmes salaires, ce qui n'est pas normal. Il y a un découragement total. Aujourd'hui, la plupart des travailleurs tchadiens, ils sont diabétiques parce qu'ils sont stressés.
Dans nos investigations, un agent d'une institution étatique qui est à un pas de la retraite confirme, je cite, « Mon chef de service a le même âge de naissance que le temps que j'ai mis au service de l'État. Dans cette condition, quelle obligation de résultat l'État peut-il attendre de moi ?» Fin de citation. André Kodumadingar N'Djamena, VOA Afrique.
C'est
Salut les amis, Roger Montou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albusson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.